Donc, construire l'apprentissage de l'algorithmie et de la logique de programmation, et je précise juste que c'est en CM2. L'année précédente, j'avais un CM1, CM2, et maintenant il s'agit d'un CM2. Alors, juste définir un tout petit peu avant ça les termes dont on a parlé, certes, mais alors l'algorithmie, il s'agit donc de construire un enchaînement d'actions pour atteindre un but dans un ordre bien précis. Alors moi j'ai peut-être une petite réponse sur le fait qu'on utilise algorithme et pas algorithmie ou que algorithmique, parce qu'en fait algorithmie, en cherchant la définition, je ne l'ai jamais trouvé. Et je crois que c'est un terme spécifique aux sciences de l'informatique et que dans le dictionnaire algorithmie n'existe pas. Alors en cherchant un petit peu, on en est arrivé à se dire que c'était un terme lié à l'informatique, mais qu'en gros l'idée est à peu près la même. Mon école, il faut se dire que donc, je suis enseignant à Strasbourg, je suis enseignant dans une énorme école de 550 élèves, 24 classes qui vont de la toute petite section au CM2, un parcours monolingue, un parcours bilingue, c'est une ZEP. Mais par contre, une chance que sur les 40 enseignants qui sont là au total, donc 24 enseignants, 24 classes, mais 40 enseignants parce qu'il y a des temps pleins, il y a des mi-temps et autres, eh bien, il y a un travail d'équipe global avec une volonté tous d'inclure le plus possible le numérique, mais en sachant que il n'y en a que deux qui savent à peu près de quoi ils parlent quand ils le font. Donc ça veut dire que derrière, on en a 38 qui, eux, ont absolument envie de se former. On pourra en parler tout à l'heure au niveau de la formation, mais il y en a deux qui savent. Alors pourquoi? Parce qu'ils sont formés seuls, ils ont appris, c'est leur dada, je crois que c'est le terme qu'ils utilisaient, c'était geek, je crois que c'est à peu près ça. Mais en tout cas, c'est utile parce qu'ensuite, il va falloir qu'on transmette éventuellement. L'algorithmie à l'école, ça peut se décliner de la maternelle au CM2. Alors, je vais peut-être plus préciser pour le CM2, mais il faut savoir qu'en maternelle, on voit directement que, on peut intégrer le fait que les enfants vont commencer à réfléchir à ce que vont être des automatismes, une action. On parlait du jeu du robot tout à l'heure. Le jeu du robot, vous allez voir comment je vais le présenter pour des CM2, mais on peut se dire que si ça devient une culture habituelle dans l'école, eh ben, le jeu du robot, on peut le commencer directement avec des moyens de section. Mais en tout cas, bon, pour l'instant, on en est là parce que la première fois que les enfants y touchent, en tout cas dans mon école, c'est bien en CM2, en sachant que leur contact avec le numérique et plus généralement l'informatique, ça se résume à Facebook, Snapchat, leur tablette et leur téléphone. Et je reviens aussi, je rejoins ce que tu disais à propos de ce constat qu'ils n'ont plus d'ordinateur. Effectivement, ils n'ont plus d'ordinateur. Donc la souris, mine de rien, on devrait apprendre à s'en servir. Le clavier, quoique les touches particulières du clavier aussi. Mais voilà, tablette, ordinateur, Snapchat, Facebook, on en est là. Donc on est dans un contexte où le B2I disparaît petit à petit, ou en tout cas pour nous. On a toujours cette envie de vouloir le faire transmettre, mais disons qu'on parle de moins en moins de discipline d'informatique. Avant, il faut se dire qu'on avait le créneau bibliothèque qui connaît à peu près à celui en même temps que le créneau informatique, et c'est celui où justement on allait utiliser des ordinateurs. Mais maintenant, on est plutôt dans un ciment global, un ciment dans lequel baignent toutes les autres disciplines, et on attend à ce que on amène cette notion de code, cette notion d'algorithme, et qui va développer des nouvelles capacités de logique, et qui va faire en sorte que l'enfant va être amené à pouvoir prévoir, pouvoir anticiper, et ça, pas forcément sur un ordinateur, pouvoir anticiper ses actions dans sa vie à long terme, pouvoir réfléchir, non pas un coup après, mais 3, 4, 5, 6 coups après. On espère aussi que l'enfant va utiliser les machines comme quelque chose de normal, mais pas comme quelque chose de magique. Comprendre son fonctionnement, c'est très bien si sur son téléphone il peut utiliser Facebook, mais déjà, comment ça se fait que son téléphone fonctionne? Comment ça se fait qu'en fait, comprendre que c'est un ensemble peut-être de capteurs tactiles, d'autres éléments qui font que ça fonctionne? Pourquoi ma batterie elle marche plus? Tout ça, on peut se dire que l'objet qu'il a entre les mains, et qu'il a très 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 facilement, même à 7-8 ans entre les mains, c'est normal de s'en servir, mais par contre, il y a une raison derrière, il y a des humains derrière qui l'ont fait, que lui pourra même peut-être faire partie de ces humains qui vont développer les choses. Alors nous, on parle peu de langage de programmation. On explique assez rapidement qu'effectivement, la machine ne comprend pas grand-chose à part l'absence d'électricité et la présence d'électricité, que donc, en gros, on traduit ça par le binaire. Alors, les enfants peuvent concevoir ce que c'est que le binaire, en sachant qu'on dit voilà, 1, 0, électricité, pas électricité. On présente ça sur des circuits simples. Mais en tout cas, on leur dit que ben, voilà, la machine va aussi avoir du mal à comprendre le langage humain. Et que donc, il faut qu'on ait une interface qui se crée. Et que là, ben, voilà, c'est là où intervient le langage de programmation. Mais que nous, on n'apprendra pas forcément un langage de programmation d'adultes, entre guillemets, ou en tout cas pas forcément pour en faire les derniers grands en jeux vidéo, parce que ça, on n'a pas encore les armes pour le faire, mais par contre, qu'on sera capable de pouvoir interagir avec une machine et peut-être même pousser l'interaction avec du réel, et donc un robot, par exemple, faire bouger un robot. Lorsque les enfants vont travailler ensemble, on va faire en sorte, c'est vraiment un des objectifs les plus grands, c'est qu'ils... Ils travaillent ensemble. Alors, travailler ensemble, ça ne veut pas dire qu'ils vont être d'accord. Ça veut juste dire qu'ils vont confronter leurs idées. Collaborer pour arriver à ce qu'ils veulent faire, un défi, eh bien, collaborer ensemble. Se corriger, soit seul, s'ils sont seuls à gérer le défi, ou bien faire en sorte que l'autre, celui qui va souffler la réponse, ou bien même quand on va trouver sa réponse seule, eh bien, ce ne sera pas une honte, en fait, on va juste essayer, avancer, et c'est peut-être même le robot qui va nous dire que ce qu'on a voulu faire, ça n'a pas marché, et se corriger. Oui, donc ça, j'en parle juste avant, que les enfants soient amenés à comprendre la technologie actuelle. Alors, les indicateurs de réussite, lorsque, au niveau du CM2, on essaye d'inculquer ces choses-ci. Alors, juste pour replacer le contexte, encore une fois, cette année, c'est la première année où on l'a inclus dans les programmes, et donc c'est la première année où on est passé de ce que j'estimais comme un petit laboratoire d'essai l'année dernière dans ma classe à bah, réellement un objectif qui, à la fin d'année, ou en tout cas en cours d'année, sera sanctionné par des compétences acquises ou non. Bien voilà, moi, je considère qu'un enfant, lorsqu'il a réussi un défi qui lui est donné, c'est un succès à court terme, c'est un indicateur de réussite à court terme. Il se corrige. À moyen terme, eh ben, l'enfant va être à l'aise avec le matériel. Quand on va lui dire, va chercher tel robot, lance-moi Scratch, lance-moi Tickle sur la tablette, etc. Eh ben, il sera à l'aise avec ceci. Et il pourra même se poser des questions sur les mécanismes. Tiens, pourquoi est-ce que le Sphéro, lui, il est capable de réagir à la présence du mur, alors que tel drone volant, lui, ben non, si c'est tout droit, il ira dans le mur et puis c'est réglé. On va se poser des questions, et là on amènera la notion même de capteur. Il n'est pas demandé du tout à ce que les enfants réussissent tout du premier coup. Parce que finalement, donc encore une fois, comme je vous disais, l'erreur et surtout sa correction, c'est ce qui va être le plus intéressant. À long terme, un des indicateurs de réussite, ce sera que l'enfant se projette, encore une fois, soit capable d'anticiper, propose des solutions et surtout les argumente. Et ça, on dépasse le stade de l'informatique. On dépasse le stade du numérique. Ça va être dans tous les cas. Quand on va demander, et ça c'est de manière traditionnelle, à un enfant de justifier son problème de mathématiques par une phrase en français, eh bien on va lui demander d'argumenter sa réponse. C'est pas cette fameuse phrase traditionnelle, une voix venue du ciel m'a dit que. Non, tu vas l'argumenter. Donc, l'utilisation des objets, tablettes, numériques, tablettes, téléphones, robots, diverses choses programmables, même interface sur laquelle on peut jouer sur l'ordinateur, eh bien, c'est plus uniquement des jouets, mais cette fois-ci, ça peut être des outils qui vont pour exprimer une créativité dont on parlait avant. Un jeu aussi qui va, un objet qui va permettre de se défier, mais sans victoire malsaine au bout. Tiens, moi, j'ai réussi à arriver à amener mon robot là-bas en faisant ça. Ben toi aussi, tu as réussi, seulement tu n'as pas fait le même chemin que moi. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Juste, on a réussi tous les deux. Alors, je vais vous présenter le déroulé d'une séquence donc, qui est un peu l'aboutissement de ce test-là, de ce test des années précédentes, mais voilà, qui est un essai cette année. Donc, qui est un essai, qui est plutôt l'application réelle cette année. On est en octobre, ça fait 2 semaines qu'on a mis en place des choses dans la classe. Ce qui veut dire que pour l'instant, on est tout au début. Mais la séquence en elle-même est plus ou moins prête. Alors la première étape, ce sont des activités déconnectées. Juste une petite précision au niveau des étapes, c'est que les étapes ne sont pas forcément successives. Elles peuvent très bien se passer en parallèle, soit lors des ateliers quand il faut que j'agisse avec tous mes élèves en même temps, soit lundi tu fais des activités déconnectées, mardi tu feras ça, lundi on recommencera les activités déconnectées, la semaine prochaine tu feras... On peut revenir, c'est pas figé dans le temps. Donc, les premières activités qu'on a, ce sont donc ces activités déconnectées, toutes bêtes, jouer au robot. Et ben, jeune homme, toi, tu vas essayer de nous décrire comment est-ce que tu vas faire, comme à partir du moment où tu es assis sur cette chaise, je voudrais que tu sortes là-bas. Alors, on va voir juste après une vidéo qui va nous présenter ceci, mais on va voir que là, l'enfant doit passer de quelque chose qui est logique. Au début, il pourra très bien dire, bah, maître, je me lève, je vais là-bas. Oui, mais maintenant, comment est-ce que tu fais? Décris-moi toutes les étapes. On va en parler juste après. Mais c'est intéressant dans le sens où on va développer des compétences en vocabulaire, en langage, puis aussi le fait de parler, de s'exprimer devant les autres. J'attire votre attention sur le fait que je ne décrirai pas forcément toujours les petites cases rouges qui sont là-haut, parce qu'on va en parler tout à la fin. Mais vous vous doutez bien que c'est par rapport à une situation donnée. Je ne fais pas du tout une liste exhaustive des situations, hein. Eh bien, quelles compétences on peut en tirer? On en reparlera ceci à la fin. Un autre exemple d'activité déconnectée, un petit jeu que j'ai découvert via Kickstarter, qui s'appelle The Bugs, et qui est une activité que j'ai d'abord essayée avec ma fille de 4 ans, qui est en plusieurs étapes, et bah, l'idée, voilà, c'est d'arriver à faire en sorte que on pose les premières étapes d'une logique par bloc pour arriver, d'une logique de programmation, pardon, alors là qui sera matérialisée par des cartes, pivote, tourne de 90 degrés, alors là on est à l'étape qui n'est pas pour les enfants de 4 ans, on est d'accord, hein. Mais avance, tourne à droite, et on pourra amener, étant donné que c'est fait en 4 étapes différentes, on peut aller jusqu'aux différentes boucles. Donc on va lancer ce jeu-là avec un petit groupe dans la classe. Ces activités-là, encore une fois, je l'ai fait avec des CM2. Si j'avais été professeur de maternelle, ou bien si mes collègues se sentaient déjà de le faire de maternelle, elles pourraient très bien l'appliquer en moyenne section, même en petite section. Hein.
Alors, attends, maintenant je voudrais que tu me redonnes l'ordre, vas-y.
D'abord, il faut que je me lève.
Ouais.
Avancer 1 mètre.
Ouais.
Tourner à droite.
Ouais.
Puis, je sors de la classe.
Alors, je sors si de la classe, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Il faut que tu me dises, tu avances, oui.
Puis je tourne à droite et j'avance.
Tu avances de combien de mètres?
3 mètres.
On essaye? Alors, étape 1, je me lève. Étape 2, tu disais, j'avance d'un mètre. Tu disais, étape 3, je tourne à droite. Et ensuite, tu disais, j'avance de 3 mètres. Essayons. Est-ce que là...
Bon, donc là, qu'est-ce qu'on trouve? Encore une fois, on est bien, c'est extrêmement simple. Mais tout de même, au début, on s'est rendu compte que c'était quelque chose que je ne peux pas en faire être humain. C'est pour ça que je vous ai demandé d'expliciter ce qui peut se dire, parce que je l'amènerai ensuite à faire en sorte que les ordres qu'il va donner, soit donner à... Un copain ou bien ensuite un machine, ce soit des ordres avec des éléments bien précis sortir de la classe.
Ça marche parce qu'on a une culture et on a un VR qui fait savoir que sortir de la classe, ça veut dire passer à cet endroit-là.
Le robot, c'est absolument rien. Alors, tu ne devrais jamais des activités connectées. Alors, moi, j'en utilise particulièrement deux. Une petite application qui est une version gratuite, une version payante. L'avantage, c'est qu'elle est disponible pour Android, pour iOS, et qui est vraiment excellente. Pourquoi? Parce qu'elle permet aux enfants de créer des algorithmes d'abord simples, et ensuite beaucoup plus compliqués. On peut inclure en basique, on peut inclure des boucles, on peut inclure ce qu'ils appellent des procédures, des sous-programmes qui permettent de de raccourcir. Si le geste habituel, c'est avance, donc c'est vraiment un petit logiciel qui est très ludique.
C'est un petit robot
qu'il faut sur une case et lui faire allumer une petite cette case en question et mine de rien qui permet de décomposer de manière vraiment très riche. Un deuxième dispositif donc lui qui a été initié par les États-Unis mais et qui a eu un succès fou parce qu'il a été soutenu par un grand nombre d'univers, notamment Minecraft, Disney, donc avec Star Wars, avec la Reine des Neiges. Et ce qui fait que c'est au-delà du fait que ça prenne en charge ce monde-là et ça se limite juste à l'univers. Eh bien, ça rend la chose attractive. Et donc là, on revoit les mêmes éléments que précédemment, les mêmes types de boucles, les mêmes types de mouvements. Mais on a un langage un petit peu différent. Là, au lieu d'avoir la touche avancée qui veut dire avance, on va avoir écrit avance de tant de cases. Et à ce moment-là, l'enfant va le faire. Et chaque jour, il peut voir un peu sa progression. Ça, c'est s'il a un compte. Si on utilise le compte de la classe, eh bien, ce sera un petit peu différent. Mais il peut voir sa progression et c'est un ensemble de 15 petits défis qui vont vraiment du très simple au défi, lorsque l'enfant de CM2 a résolu le 15e, on est relativement fier de lui. Et même soi-même, si on ne l'a pas préparé en amont, on réfléchit un petit peu pour être sûr d'avoir compris ce que lui a fait. Alors, il y a quelque chose de très intéressant qu'on ne voit pas avant, c'est que c'est la première étape pour permettre à l'enfant de comprendre que lorsqu'on appuie sur une touche, c'est pas parce qu'on appuie sur cette touche que ça fonctionne. C'est parce qu'un jour, il y a le programmeur de l'application, le programmeur du logiciel, le programmeur peut-être, en tout cas le programmeur, qui a décidé que le fait d'appuyer sur la touche flèche haut, ça veut dire avancer. Et dans cette application-là, il y a une des étapes où il s'agit d'assigner à un mouvement mécanique, à une touche mécanique, une action. Un petit élément qui pourrait être intéressant, alors, en cycle 3, enfin en CM2 en tout cas, ça ne sert plutôt que pour montrer la réalité, mais ça reste quand même une petite option sympathique, c'est qu'on peut afficher le code aussi en JavaScript de manière à montrer aux enfants, ben voilà, la vraie vie, c'est ça beaucoup. Alors là, je vais vous montrer deux petites vidéos. D'une part, donc ces enfants, encore une fois, qui découvrent Lightbot, c'était la première fois qu'on faisait... Qu'on faisait le test, donc c'est le tout première. C'est le deuxième niveau. Vous allez voir que c'est extrêmement simple, mais ça leur demande quand même une petite discussion. Alors, est-ce qu'il y aurait une autre possibilité? Nous, on a fait notre programme de manière à ce qu'il aille devant lui, il avance, il tourne à droite, il avance encore. Et il arrive sur la case bleue. Est-ce que vous auriez une autre idée qui pourrait permettre de faire ceci? Vas-y.
Il pourrait se retourner avec la case tournée à gauche. Mm-hmm. Et ensuite, il pourrait avancer, puis tourner à gauche. Et avancer, et tourner à droite. Et il est arrivé.
Non. Ok. Alors, l'idée première de Ahmed Amin, c'est se retourner. Attends, l'idée première, c'est de se retourner. Ça me va. On va essayer. On essaye. Essayons ton programme. Donc déjà, qu'est-ce qu'il faut pour se retourner?
Sur la case gauche.
Si tu veux. Est-ce que là, il est retourné? Mm-mm. Alors, combien de fois il faut que je le fasse, professeur?
Deux fois.
D'accord. Là, il est retourné. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait?
J'avance.
Mm-hmm.
Tourne à gauche.
Mm-hmm.
Tout droit. Avancer. Tourne à droite et avancer.
D'accord. Et qu'est-ce qu'il fait? Là, si tu imagines qu'il est sur la case bleue, qu'est-ce qu'il fait?
J'avance.
Sur allumé. D'accord. Donc là, il allume. Donc maintenant, on teste. Vas-y, tu testes et on voit ce que ça donne. Appuie sur le bouton vert et teste. Il s'est retourné. Il avance une fois, il tourne à droite, il allume. Ah, est-ce que ça a marché?
C'est normal d'appuyer trois fois sur avancer.
Je m'exclame. Alors, deux choses. On voit bien qu'il y a deux erreurs qui sont passées. D'une part, qu'à un moment, le robot a un petit peu avancé dans le vent et aussi il a tourné du mauvais côté. Mais vous voyez que spontanément, il y a un autre élève qui va lui sauter dessus en lui disant ben voilà, modifie. Et alors, bon, j'ai pas mis la suite de la vidéo, mais en l'espace de quelques secondes, il avait modifié. Remarquez aussi que, alors je sais pas vous, mais moi, si j'avais dû résoudre ceci, je l'aurais pas fait se retourner le robot. Parce qu'on aurait pu très bien avancer, tourner à droite, avancer, avancer, tourner à droite, avancer. Donc, toutes les solutions sont acceptables. Ça pose pas de questions aux autres. Peut-être qu'il y en a un autre, et je vous avoue que ça a été le cas, je triche un petit peu, mais il y en a un autre qui a dit ah ben moi, je serais quand même plus simple si on faisait ça, maître. Ah ben oui. Et puis ça fait, on avait compté le nombre de d'étapes qu'il fallait prendre. Ben, il y en avait une qui était plus efficace que l'autre. Bon, mais les deux fonctionnaient. Une autre vidéo, cette fois-ci, c'est sur l'utilisation du dispositif Hour of Code. Là, les enfants avaient choisi de prendre l'univers de Star Wars. Et alors, on ne voit pas très bien, je suis désolé, mais en gros, c'était aussi la première étape. Et qu'est-ce qu'on demande? Donc, la petite case en jaune qui est tout en haut, voilà. Donc, ici, quand l'application démarre, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce qui était proposé, c'est le petit robot avance, le petit robot avance, le petit robot tourne, et voilà. Donc là, on propose à l'enfant d'essayer.
Alors, tu peux tester. Sauf si tu penses que tu as terminé ton programme, tu peux tester. Sinon, tu peux continuer. Alors, vas-y. Tu vois comment on fait. Tu réinitialises en bas à gauche, voilà. Et ensuite, tu cliques. Ensuite, tu cliques sur démarrer. Hop, 1, 2, il descend. 1. Est-ce que tu peux le débugger? Tu vois qu'on n'y est pas encore réussi. Est-ce que tu peux le débugger? Alors vas-y, débugle. Tu cliques sur réessayer et tu modifies. Si tu penses qu'il est fini, ton programme, on peut réessayer. Réinitialiser et on démarre.
Alors eux sont contents, ils sont contents, c'est vrai que L'enfant ne s'est pas démonté, il avait pas trouvé une solution, il a fait une erreur, il a vu que ça a recommencé, et ça a marché.
Un troisième type d'activité, donc des activités qui sont toujours connectées, mais cette fois-ci qui ont un impact dans la réalité. Alors, le premier atout de ceci, eh bien, c'est que on a quelque chose qui bouge devant soi. Et là, on va avoir accès à deux drones. Alors ça, c'est vraiment l'application réelle de quelque chose qui est pour le coup très virtuel. L'avantage, c'est qu'en utilisant alors Tickle pour les deux, en haut vous avez un drone Parrot et en bas un drone Sphero. Eh bien, en utilisant l'application qui fonctionne sur un smartphone, on utilise le même type de langage que Hour of Code. Donc les enfants ne sont pas dépaysés. Et ils remplissent des missions, et cette fois-ci, il y a une super initiative qui s'appelle Défi Drone, et là, on a une banque de données phénoménale en utilisant toute une série de drones, et ça va de « va tout droit avec ton robot » à « ton robot volant, j'aimerais que tu le fasses passer entre deux chaises que j'empile, ou je voudrais qu'il sorte, qu'il fasse un tour et qu'il revienne. » Alors, on utilise beaucoup de choses, mais là, c'est vraiment pour donner une application réelle. Et alors là, je vous laisse imaginer l'élément motivant que ça peut donner. Ce qui est intéressant, c'est qu'aussi on va mettre en place les différents blocs conditionnels. Donc, si
Si, alors pas pour ceci, justement, là, c'est là où j'arrive, excusez-moi, sur le Timio. Donc là, on a ce fameux robot dont on a entendu parler tout à l'heure, bon, je ne vais pas beaucoup m'étaler, à ceci près que la nouveauté par rapport au reste, c'est qu'il y a ces fameux capteurs. Et c'est là où donc intervient le conditionnel. Et là, bien, les enfants vont se rendre compte que dans les machines, il n'y a pas forcément que les instructions qui lui sont données par le maître que représente le programmeur. Il y a un moment où le programmeur va, entre guillemets, laisser le choix, ou en tout cas laisser des possibilités, alors on dira d'initiative, même si ce n'est pas d'initiative, au robot, parce que voilà, si tu heurtes un mur, tu vas tourner à gauche. Donc il va lui donner cet ordre-là, mais tant que le robot n'a pas heurté, il continuera à avancer. L'enfant conçoit donc que les machines peuvent avoir conscience de l'environnement, que donc les machines doivent avoir la même chose que nous pour prendre conscience de l'environnement, bien soit les oreilles, soit les yeux, soit voilà, les capteurs. Alors, des activités connectées pour produire, et c'est là où je rejoins tout à l'heure ce dont on a parlé, Scratch. D'abord, je commence par Scratch Junior. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, c'est la seule chose que j'ai cette année essayé. Et alors, avec Scratch, c'est vrai qu'on peut atteindre un niveau de pluridisciplinarité assez grandiose. On peut très bien aller, d'une part, à la compréhension d'un texte. Pour l'instant, on est en train de travailler sur une histoire de Karim Tournade où les animaux doivent décider ensemble du sort des êtres humains, parce que les êtres humains massacrent les animaux au fur et à mesure, en tout cas tous les animaux ont des griefs contre les humains. Eh bien, là, dans 3 semaines, on scénarisera ceci sur notre via Scratch, et là on va avoir des enfants qui n'ont pas forcément le plaisir de lire, ou en tout cas sont de très 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 mauvais lecteurs, ont besoin de s'y reprendre à 4 fois pour comprendre le texte. Ben là, quand il va falloir rentrer dans la programmation, parce que ça leur plaît, eh bien, vont avec plaisir reprendre le livre et se dire, tiens, alors la souris, c'est quoi son grief? Ah oui, c'est que voilà, on la manipule en laboratoire. Bon. Et donc là, on ouvre un champ qui est assez grand. D'autant plus que l'enfant, on peut très bien l'amener à concevoir des jeux. Grâce à Scratch, on peut se dire qu'une grande section de maternelle peut créer Pong. Aucun problème. Qu'est-ce que c'est? Il suffit juste de faire en sorte que l'enfant... Alors, plutôt Scratch Junior que Scratch, parce que donc Scratch Junior, il va s'agir de petites cases avec des symboles. La plus grosse difficulté de Scratch Junior pour un élève de maternelle, ça y est, parce qu'il y a un éléphant dans l'histoire. Donc, pour un élève de maternelle, c'est d'utiliser des nombres. Et bon, après, avec l'aide de la maîtresse, on peut très bien arriver. Et puis, un élève de grande section, les nombres, il peut déjà aussi commencer à maîtriser. Mais donc, un élève peut créer son propre jeu vidéo. Et là, voilà, ça prend une dimension supplémentaire. Le jeu auquel je vais jouer à la maison, c'est pas de la magie. Et donc, ben voilà, l'utilisation de Scratch en elle-même, alors là, qui est, à mon sens, une finalisation d'un projet, parce que c'est quand même... je pense qu'on peut avoir du mal à commencer directement avec ceci, parce qu'on est, à ceci près que c'est un petit peu plus ludique, parce qu'on est encore dans une programmation par bloc, et il y a les couleurs, etc. Là, on est quand même pas loin du langage adulte. L'avantage de Scratch par rapport à Scratch Junior, c'est que le programme qu'on aura conçu en Scratch, on pourra encore le réintégrer à nos...
Ce que je voudrais que votre personnage fasse, alors je vous ai dit de part et d'autre, je voudrais aussi qu'il soit un en haut et l'autre en bas, c'est que vous fassiez en sorte que les deux personnages se rejoignent, l'un en face de l'autre.
Et ben ça c'était juste.
Au milieu,
donc
là, on est là.
Et on
va souvent
là, on
est là. Il faut bouger les deux personnages.
Ici, hein. Ici. Et maintenant, allez-y, montrez-moi le résultat de ce que vous avez fait. Si tu veux, on peut le mettre là.
Ça me fait, c'est mieux de le mettre là, parce qu'après, il va passer le chat.
D'accord. Et ben voilà, mission remplie. Très bien. On regarde ça, voilà.
Donc, ça, on est encore une fois d'accord que ce sont des élèves de CM2, mais encore une fois, c'était la deuxième demi-heure. C'était quand même assez intéressant d'arriver à voir ça. On voit deux choses qui sont particulières. La première, c'est que les enfants négocient entre eux. Là, par exemple, le petit Mathéo, la petite tête blonde, est en train de dire « Voilà, moi, je pense qu'on pourrait essayer de passer par là. Non, regarde, là, il va aller trop haut, etc. » Et donc, il discutait avec son copain. Ça, c'est la première chose. La deuxième, alors, vous n'avez pas bien vu, mais c'est qu'il y a le deuxième groupe qui est passé a décidé de faire monter son personnage, a décidé de faire descendre l'autre et les faire se retrouver. C'est vrai, ce que naturellement on aurait pu faire quand on monte ce défi-là. L'autre groupe, il a décidé d'une part de faire que son premier personnage, parce qu'il le trouvait sympa, fasse le tour de l'écran, et puis ensuite le fasse remonter. Le défi est accepté, ça a marché, il n'y a pas de problème. Alors, cette fois-ci, on atteint d'autres types d'activités. Et là, on est dans le déconnecté. Et par contre, on est vraiment dans un autre type de choses que l'on demande dans les programmes. C'est là où je reviens à quand j'ai acquiescé l'EMC pour le cycle 3. Alors, surtout en ce moment, on parlait tout à l'heure des voitures autonomes, mais l'avènement de ce monde-là auquel nos enfants sont systématiquement confrontés fait qu'on peut se poser énormément de questions. Alors nous, on se les pose en tant qu'adultes. Alors, en ce moment, il y a des débats qui sont faits au niveau des voitures. Qu'est-ce que fait une voiture autonome si elle risque de percuter, elle n'a aucun moyen de freiner, elle risque de percuter des pierres? Est-ce qu'elle choisit de percuter les pierres au risque que les passagers décèdent, ou bien bifurque, évite les pierres, mais par contre écrase deux personnes qui sont en train de traverser? La question se pose, on a des questions éthiques qui sont en train d'être définies, mais voilà, il y a tout un certain nombre de choses. Alors je vais essayer de vous montrer, ce que j'aimerais bien, c'est que cette fois-ci on l'entend. Donc un débat qu'on avait mené avec les enfants. Alors celui-là, il est tout récent, il doit dater de jeudi dernier. Et la question, bah, vous allez voir.
Les robots peuvent remplacer les hommes? Oui, non, peut-être, pourquoi? Qu'est-ce que vous en pensez?
Les robots, on ne peut pas les laisser travailler à la place, parce que sinon, par exemple, ce sera qui gagnera le salaire?
Moralité, est-ce que les êtres humains doivent remplacer les... Par exemple, dans une entreprise qui construit des choses à la chaîne, est-ce qu'il vaut mieux mettre des êtres humains ou des robots?
C'est très bien.
Ah, Benjamin.
C'est déjà dans une en Allemagne. Et quand ils fabriquent les voitures, ils utilisent des robots pour les carcasses et les moteurs.
Pourquoi?
Vite.
Alors, le robot va agir plus vite. Riyad, que dis-tu?
Parce qu'ils veulent ne pas donner d'argent aux détenus.
Et donc, ils préféreraient. Comme ça, il n'a pas besoin de payer. Ouais.
Moi, je trouve que si les robots remplacent les humains dans leur travail, je trouve que ce sera absurde, parce que sinon, les humains ne sont pas autonomes.
Est-ce que tu connais le mot quand on n'est pas autonome et quand on est lié à quelque chose?
Non, dépendant.
Dépendant, exactement. Très bien, Amir. Donc, on devient dépendant. À ce moment-là, le technicien, il faut qu'il trouve un autre métier. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme métier?
Quelqu'un qui surveille.
Donc, à la base, le monsieur qui mettait cette porte-là, finalement, il va laisser le robot faire, mais lui, il va surveiller que la chaîne se
roule. Les enfants se posent des questions. Hein. Encore une fois, ils ont 10 ans et ils se posent des questions. On a des enfants qui amenaient le fait que les chefs d'entreprise, ça leur permettait de pas payer des gens. C'est vrai. Bon, après, il s'est rendu compte juste après qu'aussi, il fallait peut-être payer les robots. Bon. Et qu'après, s'ils tombaient en panne, il fallait peut-être s'en occuper des robots. Enfin, donc, il y avait un coût. Mais voilà, ça amène des discussions. Alors, là, c'est une discussion au niveau de ce que c'est légitime de remplacer un être humain par un robot. Mais on peut amener beaucoup d'autres choses. L'éthique, tout à l'heure on parlait de la bioéthique aussi, l'intervention à propos du bras d'extension,
prothèse.
Oui, voilà, prothèse, c'est le mot que je voulais. La question se pose, c'est vrai. Et quand on en vient à ce qui était de la science-fiction il y a 40 ans, on est en science maintenant. Donc voilà, est-ce qu'on accepte de ressembler, est-ce que, voilà. Alors, les différents avantages pédagogiques qu'on peut avoir. Je vais sûrement répéter ce qui a été dit, j'en suis même quasiment sûr, parce qu'on est à peu près tous d'accord. Je vais peut-être rajouter l'un ou l'autre élément. Alors d'une part, l'essai-erreur. C'est encore une fois quelque chose qui est vraiment impressionnant dans le sens où l'enfant ne voit plus du tout ça comme une remontrance. Bon, ben voilà, ça ne marche pas, hop, il reprend. C'est extrêmement ludique, on rentre facilement dans l'activité. Les enfants atteignent tous l'objectif. Alors, peut-être pas tous très rapidement, mais la maîtrise de chacun est vraiment très rapide. Et d'autant plus qu'on peut parfois voir des enfants se révéler. Je reprends tout à l'heure l'enfant qui lisait extrêmement mal. Alors j'ai un enfant qui est très 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 dyslexique dans ma classe. Et c'est un calvaire pour lui quand je lui demande de lire. Pas forcément, c'est un calvaire pour lui quand je lui demande de lire à haute voix et de comprendre en même temps. C'est vrai. Sauf qu'il se révèle être un as à Lightbot. Quand on avait joué à Lightbot, quand on avait fait que ça encore, il était déjà à la troisième série de niveau. Alors là, il me demandait d'intervenir parce que lui, il ne comprenait pas ce que c'était que les... En tout cas, il a mis peu de temps à comprendre, mais il ne comprenait pas ce que c'était que les procédures. Mais une fois qu'il avait compris, il était... Ben voilà, on a un gamin qui partait de... généralement, dans l'école, dans la classe, j'ai pas une place où je brille, à... C'était mon adjoint. L'enfant, il venait m'aider dans la gestion, parfois, de certains groupes. Parce qu'il comprenait. Et alors, ce qui était sympathique, c'est qu'on remarquait surtout, alors c'est peut-être son caractère, mais une certaine empathie, parce qu'il était très patient avec les enfants. Il est très, très, très patient. Donc, il y a une entraide qui se fait. Alors, une entraide, dans ce cas-là, très particulière, mais même entre les enfants, quand il y en a un qui ne comprend pas, ils vont discuter rapidement, et puis ils ont le droit. Hein. Ils vont discuter rapidement, tiens, regarde si tu fais ça, sans forcément révéler la réponse. Et puis, ben, maintenant qu'on est dans un cycle commun avec le collège, il faut avouer que c'est une entrée très facile avec certains interlocuteurs. Le professeur de techno en particulier, mais pas que lui. On va le voir juste après en parlant d'interdisciplinarité. On peut être amené à travailler avec chacun. Un autre élément que j'avais pas mis là-dedans, c'est que les enfants vont systématiquement demander sur quoi ils ont travaillé pour pouvoir réessayer à la maison. Ah, maître, c'était quoi le site avec la Reine des Neiges ? Maître, c'était quoi l'application là ? Tu penses que je peux la télécharger sur ma tablette ? Ah bah écoute, ouais, pourquoi pas, essaye. Donc ils essayent à la maison. Alors des fois, je leur demande de ne pas trop le faire pour ne pas complètement me pourrir ma séance derrière. Mais toujours est-il qu'ils sont demandeurs. C'est quand même beaucoup plus rare qu'ils viennent à me demander 5 problèmes de maths à faire à la maison. Bon, j'espère que ça pourra venir. Alors on aborde la question qui fâche, les limites. Les limites sont simples. Tout ce qu'on a là, il faut se dire que c'est de l'investissement personnel. Donc il y a très 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 peu de moyens là-dessus. Les matériels demandent... Alors l'investissement, entre autres, c'est surtout de la récupération. Hein. Le matériel demande beaucoup d'argent. Quand bien même, j'ai absolument pas la volonté de vouloir doter tous les élèves en même temps d'une tablette. J'ai pas du tout la volonté d'avoir 26 tablettes dans la classe. Pour l'instant, j'en ai une dizaine et je pense que ce nombre-là va rester pendant un certain temps. En revanche, ça a quand même un coût. Ça a un coût de maintenance, ça a un coût pour les applications. Alors, entre autres, au-delà de la programmation, ben, par exemple, on utilise Evernote pour faire de la radio. Evernote a un abonnement tous les ans. On utilise beaucoup de choses qui ont un coût certain et qui ne trouvent pas forcément de ligne budgétaire dans l'administration actuelle. Donc bon, pour être plus simple, ma carte bleue, c'est plus facile. C'est un autre problème. Il y a peu de formations accessibles. Alors moi, j'entends beaucoup tout ce que, ici ou à d'autres endroits où je vois... quand on parle du collège, on en parle beaucoup. Seulement pour le premier, le second et le troisième cycle, parfois, il y a d'autres priorités. Et c'est vrai que actuellement, les nouveaux programmes, par exemple, vont nous prendre beaucoup de temps de formation, la mise en place du livret unique va nous prendre du temps de formation, ce qui fait que on est peu formé. Alors, peu formé de manière institutionnelle. Et là, on va reprendre une discussion qu'on avait tout à l'heure. Qui va former ? Ça va être ceux dans l'école qui ont envie. Et quand ceux dans l'école ont envie, ils vont former les autres. Et ensuite, en imaginant que les autres aient aussi envie, puis ils vont continuer. Alors, c'est très bien ce fonctionnement-là. Seulement, il faut aussi se dire que ça, c'est chronophage. C'est très, très chronophage. Mais bon, ça fait partie du plaisir d'avoir 40 collègues. Un autre souci, et puis bon, quand on voit que des collègues qui peuvent être très réticents au départ sont ensuite ravis et ont envie de se lancer dedans, c'est chouette. Par contre, tout de suite, il y a le problème du coût du matériel pour eux. Enfin bon, c'est une boucle sans fin. Un autre souci qui, lui, est peut-être un peu moins gênant, mais par contre, qui reste quand même, quand on veut se mettre là-dedans, la compatibilité entre les différentes choses. Scratch, facilement sur un Mac, c'est compliqué. Enfin, compliqué. Il y a des étapes avant de pouvoir mettre Scratch dessus, parce que les Macs n'acceptent pas Flash. Il y a beaucoup d'exemples avec la compatibilité, mais c'est des exemples qui arrivent au fur et à mesure. Alors, tout à l'heure, je vous parlais d'observer mes petites cases rouges parce que j'allais en parler. Et bien, c'est maintenant que j'en parle. Là, je les ai remises ensemble. Et ce que je vous propose, c'est de les trier. Et là, en fait, on arrive dans des champs, les domaines qu'on retrouve dans le programme. À gauche, on est en mathématiques. Alors, bien entendu, encore une fois, c'est pas du tout exhaustif, mais à gauche, on est en mathématiques. L'approche des angles, c'est du cycle 3. La résolution de problèmes, c'est cycle 2, cycle 3. Le repérage dans l'espace, on est en cycle 3, le repérage dans le plan, on est dans le cycle 2. Le CM, donc l'éducation civique et morale, bon, ça c'est un petit peu tout le temps, mais ça reste une compétence, un savoir-faire qu'on développe en classe, et puis après, c'est pour la vie. On espère qu'ils continueront à réfléchir par eux-mêmes. Les fonctionnements des machines, alors c'est vrai que c'est peut-être pas quoi que ça, c'est écrit explicitement. Des notions d'électronique, par exemple, c'est pas écrit explicitement, mais si on éventre une machine pour faire comprendre aux enfants, certes, il y a un gars derrière qui a piloté pour que ça fonctionne, mais que là-dedans, il y a ce qui s'allume, c'est pas non plus de la magie, c'est une LED, il faut une batterie, encore une fois, on a plein de choses. Et puis, tout ce qui est lié à des compétences, mais qui sont utiles pour la vie entière. Alors, encore une fois, l'informatique, et puis ce domaine-là particulièrement, c'est un ciment, on pourrait faire ça avec différemment, sans servir des robots, sans servir de programmation, mais quand même, si on arrive à adjoindre en même temps le ludique et ces apprentissages-là, ça vaut le coup. Bon, ça c'est un petit un rêve que j'aimerais avoir, c'est des Lego Mindstorms, en sachant que ça coûte à peu près 400 euros pour 3 élèves. On n'y est pas tout de suite, mais il existe alors des ressources. Alors c'est vrai que les Français sont un petit peu moins à la page là-dessus, mais quand on regarde, on a des ressources suisses ou des ressources canadiennes qui sont phénoménales. Mais ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Alors perso, j'en ai, mais en classe, c'est un peu compliqué, non pas parce que je ne veux pas le ramener, mais encore une fois, 26 élèves, une caisse qui est valable pour 3 ou 4 enfants, c'est un peu compliqué. Alors pour conclure, l'utilisation des robots, l'apprentissage, l'algorithmie, ça permet de développer tout un tas de savoirs, de savoir-être, de savoir-faire, pluridisciplinaire, d'une manière ludique, motivant. Ça joue sur le créatif. Les compétences qui sont développées sont utiles pour la scolarité, en maths, en français. Sont aussi utiles dans la vie courante. La pensée logique, on demandera toute sa vie d'en avoir. Le questionnement éthique, le questionnement juridique, sur les usages. Ce sont des choses qu'on va demander pour toute la vie de l'être humain. Les questions que vous posiez tout à l'heure, chers camarades, je pense que oui, c'est utile pour comprendre, pour aider les enfants à lire, de passer par ce type d'application. Parce qu'on a envie de lire, si on peut le traduire, Scratch, si on peut le traduire par une application, par un format BD qu'on va créer, une BD animée, un dessin animé. Les algorithmes, ça va nous permettre de gérer des problèmes typiques. Se poser des questions, encore une fois, ça permet les questions qu'on va se poser sur le fonctionnement, c'est des questions qu'on se posera plus tard. Et puis être conscient finalement que la technologie, c'est pas quelque chose de magique.
Poser à la salle de réagir, de poser quelques questions et je promets, je ferai une courte conclusion à la suite. Peut-être dire également parce que on évoque et puis parce que dans les programmes, les questions ou les accompagnements de programme de Scratch. Scratch, Snap, Ready, Tangara, Columbus que je vois au bout des clics. Voilà. En fait, il y a différentes alternatives. On verra à l'usage, mais avec toutes les mêmes intentions, avec également ce passage qu'on a vu, qu'on a senti chez les uns et chez les autres, c'est comment tout à coup tu as dit hey Coco, c'est ça la vie, si je veux écrire de la ligne de code derrière, en réalité ça s'écrit autrement. Donc voilà, juste pour le début, on voit bien en fait les progressions, la possibilité d'avancer au fur et à mesure. Moi, je commencerai par une première question, parce que du coup, on a vu dans les deux cas, vous avez évoqué la possibilité d'utiliser donc ces activités pour rédiger un texte. Et puis, je me suis dit, on l'a vu également ce matin quand on a dit faire bouger un bras, etc. Et comme évoqué, je me dis, c'est l'art, quand on demande, typiquement, c'est l'art, on nous dit. Et écrire un texte, les mêmes consignes, on va dire, il faut un décor, il faut des éléments, il faut une action, un personnage. C'est quand même quelque chose qui se fait aussi de manière très classique par de l'écriture. Est-ce qu'il y a l'idée de combiner les deux et de montrer peut-être aussi, alors là c'est une impression en tout cas que cela donne, je vais me faire non pas l'avocat du diable, mais
je sens la question.
Je sens la question qu'il vient de dire, mais quelle écriture automatique, quel élément, quel stéréotype dans lequel on va entrer si jamais. Voilà, donc comment. Tu vas me répondre vocabulaire, enrichissement, etc.
Non, mais c'est surtout que ce que j'ai montré là, c'est je dirais, un vingtième du temps d'une semaine. Tout le reste, c'est classique. Enfin, c'est classique. C'est juste un vecteur supplémentaire qui permet d'entrer dedans d'une autre manière, et puis peut-être avec un plaisir différent, en tout cas pour certains élèves, de vouloir entrer dedans alors qu'ils n'auraient peut-être pas forcément voulu. Mais on ne fait pas que ça.
Oui, du coup, tu rebondis en fait pour moi sur un des grands dadas de la DNE qui est enrichir la palette des possibles pédagogiques, donc avec du numérique, du non-numérique, etc. Ça, ça fait partie de nos. Et en même temps, ce que je trouvais intéressant, mais je sentais bien la question qui est derrière, notamment donc, pour les activités français, langue vivante, enfin, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Créativité, art, je vois bien où on va. C'était véritablement sûr. Et même chose de votre côté pour faire écrire, en fait, les élèves. Je vais passer le micro. Je pense qu'il y a deux réponses.
Alors, moi, je suis informaticien, je ne suis pas instit. Mais je fais confiance aux instit pour conduire l'enseignement et arriver à tirer tout ce qui est meilleur, tout ce qui est possible d'une situation. Moi, quand j'ai présenté la créativité, c'était simplement pour montrer, mon point, c'était enseigner la pensée informatique. Et ce que j'expliquais, c'était que la pensée informatique, l'enseignement en primaire, il n'y a pas vraiment de place dédiée à ça, d'une part. D'autre part, pour les instituts, ils n'ont pas forcément besoin d'enseigner ça, puisque ce n'est pas exactement dans les programmes. Donc, en revanche, si on leur donne la possibilité d'enseigner ça en même temps qu'autre chose, et qu'on leur montre qu'il y a une valeur ajoutée à soit enseigner le français ou les maths en termes disciplinaires ou en termes motivationnels, là, ça donne une porte d'entrée. Et ensuite, pour moi, et c'est pour ça que j'ai fait référence aux travaux de Papert, quand on dit l'informatique peut être un support pour la créativité, évidemment, personne n'a en tête que ça va à l'encontre d'utiliser quoi que ce soit d'autre. C'est un outil, c'est un moyen qui présente des particularités, des caractéristiques avec des avantages et des inconvénients. Inconvénients, il y a besoin d'une machine, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas dessiner comme on peut le dessiner avec un papier. Avantages, on peut tester des choses, il y a le côté rétroaction, il y a le côté animation. Donc ça a des caractéristiques, des avantages et des inconvénients. Et ensuite, les enseignants savent très bien utiliser toute la palette de vecteurs pédagogiques qu'ils ont pour en tirer le meilleur en fonction des situations, en fonction des élèves et en fonction des objectifs d'apprentissage, parce que ce qui est bon pour un élève peut être moins bon pour un autre dans une autre situation. Donc il faut arriver à caractériser, je dirais, tous ces outils et à donner les moyens aux enseignants de s'en servir à bon escient.
Alors pour aller tout à fait dans la direction de M. Tchounikine, qui nous parle de vecteur d'apprentissage, je vais donner trois exemples de situations qui peuvent être pris en français, qu'on a vu dans les classes l'année dernière ou qui sont en projet. Le premier exemple, c'était l'écriture des règles de grammaire sous forme d'algorithme. Donc comme ça, les classes de CM qui ont pratiqué le conseil informatique l'année dernière nous ont tous fait des règles, si, comme vous avez dit, on en a parlé ce matin. La deuxième implication, on en a parlé en groupe ressources l'autre jour, c'était au niveau de la lecture-compréhension. On s'aperçoit que souvent en lecture, on est dans la réception d'un texte, on va dire dans la séquence. Or, on apprend avec la pensée informatique, les enseignants ont ressenti ça, on apprend plutôt à fonctionner en parallèle. Et du coup, on s'aperçoit que les élèves qui ont l'habitude de penser informatiquement, ils vont aller chercher l'implicite. C'est-à-dire que oui, mais alors si dans le texte, il est en train de nourrir la grenouille, alors à ce moment-là, ça veut dire à quel moment il va chercher le caillou, est-ce qu'il l'a trouvé, qui est-ce qu'il lui a donné. Enfin, les élèves en CPCE1 sont allés chercher... J'avais pas d'exemple en tête. Les élèves de CPCE1 sont allés chercher ce genre d'explication, et l'enseignante, qui est aussi très émérite dans son niveau, a pu voir la différence d'une année sur l'autre. Troisième exemple, on est en train de construire des contes. On peut très bien utiliser différents schémas narratifs, avec le robot notamment, pour faire des boucles. La quête, comment elle s'effectue? Elle s'effectue en boucle, ou alors elle s'effectue en séquence qui se suit. S'il arrive à ce moment-là, alors il pourra. Donc il y a plein, en effet, il faut faire confiance aux enseignants, les scénarios pédagogiques, ils vont les construire, il n'y a pas de souci.
Et juste pour ajouter un point, donc, par exemple sur les langues, là, mes étudiants, moi je les mets en situation de construction de séquences et de séances, hein, pour un peu les mettre confrontés. Et donc ils faisaient des choses en langue, par exemple des exercices, il faut répondre à des questions en anglais, et puis ben, on analyse la réponse et on réagit, donc il y a cet aspect-là. Et un autre aspect qui n'est pas apparu dans la journée, mais qui était très présent chez mes étudiants, parce qu'ils sont formés à l'ESP, je pense, c'était le travail intercycle. Et ils travaillaient beaucoup en liaison primaire, maternelle, et par exemple les primaires faisant un petit programme qui va être testé, auquel vont jouer les maternelles. Et donc une motivation comme ça à l'intérieur de l'école à faire travailler plusieurs cycles entre eux. Et ça aussi c'est un support, un vecteur pédagogique utilisé beaucoup apparemment les enseignants.